La fabrique des rêves. Elodie, Tinkinpinky et Thierry s'engouffrèrent dans le tunnel serpentant sous le damier. La jeune fille tenait ses parents par la main et s'efforçait de les faire avancer, ce qui n'était pas facile. En effet, le roi et la reine roulaient des yeux en bille de loto, comme s'ils ne comprenaient rien à ce qui les entourait. Ils ne parlaient pas de manière intelligible. Quand ils ouvraient la bouche, c'était pour produire des bredouillements sans queue ni tête. Après avoir longuement cheminé dans les ténèbres du souterrain, les fugitifs débouchèrent de l'autre côté du damier, sur la plaine, non loin de l'endroit où ils avaient abandonné le chariot. La sortie du passage secret était dissimulée par une trappe recouverte d'herbe, ce qui faisait qu'on ne pouvait la repérer. « Si nous avions su, soupira le lapin, nous n'aurions pas pris tous ces risques en sautant de case en case. »« Ouais, grogna Élodie. » Oncle Borot est un sacré malin. Ils entassèrent de grosses pierres sur la trappe au cas où les chèvres bourreaux se lanceraient à leur poursuite, puis regagnèrent le chariot. Les frères de Tinkinpinky avaient allumé un feu de camp et faisaient bouillir des carottes dans une marmite. Ils furent très impressionnés en reconnaissant les deux souverains, mais, comme à leur habitude, ne desserrèrent pas les dents. Thierry essaya d'établir le contact avec le roi Miroflore et son épouse en vain. Les deux adultes paraissaient plongés dans un état de stupeur résultant des élixirs magiques qu'on les avait forcés à boire. « Je crois qu'ils continuent à se prendre pour des plantes, » murmura le jeune homme. « Regardez, le roi s'est couché par terre comme s'il était du gazon. Quant à la reine, elle ne cesse de regarder autour d'elle à la recherche d'un mur où elle pourrait grimper. « Tu as raison, » grogna le lapin. Il faudrait les faire soigner par un puissant magicien. Hélas, je n'en connais point. Le plus grave, observa Thierry, c'est que nous ne pourrons pas les montrer à nos partisans dans cet état. Le peuple n'acceptera jamais de se soulever contre l'usurpateur pour prendre le parti d'un roi et d'une reine aussi diminués. Élodie observait ses parents sans trop savoir quoi faire. En tant que princesse, elle n'avait jamais eu beaucoup de contact avec eux. Ils étaient presque des étrangers pour elle, mais elle était tout de même très embêtée de les voir dans cet état. Son père rampait sur le sol pour essayer de se dissimuler dans l'herbe, comme s'il continuait à fuir la menace des chèvres bourreaux. Sa mère, elle, lorgnait avec gourmandise un vieux pan de mur sur lequel elle rêvait visiblement de grimper et de s'étirer. Quelle histoire, songea la jeune fille, il faut bien l'avouer. Notre expédition se solde par un échec cuisant. Ils décidèrent de dormir sur place et de prendre une décision le lendemain. Thierry reprit son apparence de tatouage sur l'épaule d'Élodie, car il ne pouvait conserver trop longtemps sa forme humaine sans pâlir et devenir transparent comme un fantôme. Au matin, Élodie découvrit son père toujours aplati dans l'herbe et sa mère juchée au sommet du pan de mur. Accrochée aux vieilles pierres, elle souriait, heureuse de s'exposer aux rayons du soleil naissant. « Peut-être vont-ils toujours rester comme ça, » soupira l'adolescente. « Dans ce cas, il va falloir que j'apprenne à me débrouiller toute seule. »« Oui, ça vaudrait mieux, » grogna Tinkinpinky, « car il ne sert à rien de se raconter des histoires. Inutile de compter sur ton père et ta mère. »« Désormais, tu es le seul espoir qui nous reste. » Il n'y a que toi qui puisses renverser Boromidas, l'usurpateur. « Mais je n'ai que 12 ans, gémit Élodie. Qu'est-ce que ça peut faire, s'impatienta le lapin. Au royaume des songes, l'âge n'a pas d'importance. Si tes parents continuent à se prendre pour des légumes, nous les ferons destituer par le Conseil d'État et tu seras couronnée reine à leur place. » Élodie écarquilla les yeux. Elle avait beau avoir récupéré une partie de ses souvenirs, elle continuait à se sentir étrangère dans cet univers où tout était possible. « Moi ? » balbutia-t-elle. « Reine ? Nous n'en sommes pas encore là, » coupa Tinkinpinky. « Il faut continuer le combat. Et tout d'abord, nous introduire dans le palais de Boromidas pour le faire prisonnier. » « C'est envisageable. » « Ce sera dangereux, très dangereux, car il est d'une rare méfiance. Il n'a confiance en personne et se méfie de tout le monde. » Le mieux serait de trouver un emploi à la fabrique des rêves qui se dresse au pied du palais. Cela nous permettrait d'observer les lieux et de mettre un plan d'action au point. Et mes parents, s'inquiéta Élodie. Ils resteront avec mes frères qui veilleront sur eux. Le lendemain, Élodie et Tinky Winky chargèrent chacun un baluchon sur leur épaule et se mirent en route. Le lapin fit le point au moyen d'une noix boussole et s'orienta en consultant une carte imprimée sur une feuille de chou. « C'est par là, indiqua-t-il, à 2 jours de marche. Espérons que nous ne croiserons aucune patrouille. » « En quoi consiste la fabrique des rêves ?» demanda Élodie. « J'aimerais mieux être au courant, surtout si je dois faire semblant d'y quémander du travail. »« C'est un centre de tri postal, » expliqua le lapin en plissant le front. « On y reçoit les commandes en provenance du monde réel et on doit se débrouiller pour les traiter le plus vite possible. »« J'y comprends rien, » grogna l'adolescente. « Explique-toi mieux. »« Bon, » soupira Tinky Pinky. Imagine qu'un collégien paresseux n'ait pas envie de faire ses devoirs de maths, par exemple. S'il souscrit un abonnement avec la fabrique, on lui expédiera la solution des exercices pendant son sommeil, sous forme de rêve. Quoi ? Mais oui, c'est simple. On lui expédiera la solution qui s'implantera dans un coin de sa mémoire. En s'éveillant, il la trouvera là, toute prête, et n'aura qu'à la recopier. Même chose pour les leçons qu'on n'a pas envie d'apprendre. La fabrique les enverra empaquetés dans un beau rêve et elles s'installeront dans la tête du dormeur qui, au réveil, pourra s'en souvenir sans avoir ouvert ses livres de classe. Beaucoup de collégiens passent des commandes de cette sorte. Ça leur évite d'avoir de mauvaises notes. De cette manière, ils peuvent regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo au lieu de suer sang et eau sur leur cahier. Et comment s'y prend-on pour passer une commande ? Oh, c'est simple. Il suffit de penser très fort à ce qu'on veut obtenir en s'endormant et de glisser quelques billets de banque sous son oreiller. Dans la nuit, le livreur prendra l'argent et installera le rêve dans la tête du gamin. « Mais comment les écoliers sont-ils au courant de ce système ?» s'étonna Élodie. « Par la publicité rêvée, » fit le lapin. « Boromidas diffuse des écrans publicitaires dans les rêves des humains. Ça fonctionne comme les coupures de pub à la télé. » Le rêveur voit apparaître un personnage qui lui dit « Ça t'intéresserait de ne plus apprendre tes leçons, de ne plus faire tes devoirs ?»« C'est possible, il te suffit de t'abonner à notre service de livraison à domicile. » »« Voilà, c'est pas plus dur que ça. » »« Mais pourquoi réclamer de l'argent sans qu'il adolescente ?»« Bourreau n'en a pas besoin, puisqu'ici on paye en papillons ou en pièces d'or. » »« Tu es parfois un peu naïf, » soupira Tinky Pinky. Boromidas engrange l'argent des humains au cas où il devrait s'enfuir précipitamment du royaume des songes. Si les choses tournaient mal pour lui, il trouverait refuge dans le réel, là où il a amassé un véritable trésor. Il vivrait là-bas comme un roi. Voilà à quoi lui sert l'argent des gens tristes. Boromidas a perverti le système. Avant son arrivée, les rêves étaient envoyés gratuitement aux humains. Certes, ils n'étaient pas tous de très bonne qualité, mais personne ne payait pour rêver. Aujourd'hui, le rêve est devenu un marché. Avant, on rêvait pour le plaisir. Maintenant, on rêve utile, pour obtenir des choses précises qui serviront. Les écoliers commandent les solutions des devoirs qu'ils n'ont pas envie de faire, mais les scientifiques, eux, commandent des traits de génie. Les joueurs, la combinaison gagnante au tiercé ou au loto, et ainsi de suite à l'infini. Personne ne veut plus faire d'efforts. Les gens payent pour découvrir, à leur réveil, ce qu'ils ont commandé bien installé au chaud dans leur mémoire. Ensuite, ils n'ont plus qu'à recopier. C'est de la triche ? Oui, mais ils s'en fichent. Aujourd'hui, Boromidas règne sur un marché fabuleux. Des millions et des millions d'abonnés qui, chaque soir, glissent quelques billets de banque sous leur oreiller. Il est devenu le maître des rêves. Les gens tristes lui commandent des rêves de bonheur pour oublier leur ennui. Beaucoup d'adolescentes lui commandent des rêves où elles sont chanteuses, actrices, top modèles. Et les ouvriers de Boromidas leur fabriquent de véritables petits films sur mesure. Des rêves où elles sont les stars. Quand elles se réveillent, elles n'ont plus qu'une idée, se rendormir pour recommencer à rêver. « C'est grave, » observa Élodie en grimaçant. « Si ça continue comme ça, les humains passeront leur vie à dormir. Ils ne voudront plus rien faire d'autre puisque le rêve leur semblera plus intéressant que la réalité. C'est bien là-dessus que compte Boromidas. Il espère que son usine à rêves détrônera bientôt la télé le cinéma et les jeux vidéo. Au train où vont les choses, il se pourrait bien qu'ils réussissent. Je ne savais pas tout ça, fit la jeune fille. L'usine à rêve a été installée après ton exil, expliqua le lapin. Comme je te le disais, du temps de tes parents, les livraisons étaient gratuites, les rêves bricolés. Souvent, ils n'avaient aucun sens et les rêveurs n'y comprenaient rien. Avec Boromidas, tout a changé. Les rêves sont devenus des films qu'on projette directement dans la tête des gens. Des films dont ils sont les héros. Et c'est là que nous allons travailler? Oui, la fabrique est immense. Elle emploie des milliers d'ouvriers, car il faut une énorme main-d'œuvre pour manipuler les colis. Les colis? Les rêves sont présentés sous la forme symbolique d'un paquet cadeau enrubanné. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'engage jamais de garçons ou de filles aux ateliers. Seulement des animaux ou des légumes. Élodie tressaillit. Elle dévisagea Tinky Winky comme s'il se moquait d'elle. « Et pourquoi » s'étonna-t-elle. « Parce que Boromidas ne veut pas d'employés susceptibles de lui voler les rêves destinés aux humains. Cela lui ferait perdre de l'argent. Il se dit que les rêves qu'il fabrique sont si alléchants que les garçons et les filles ne résisteraient pas à la tentation de s'en emparer. Avec des animaux et des légumes, il est tranquille. » Les animaux et les légumes ne s'intéressent pas aux rêves des hommes. À qui fais-tu allusion quand tu parles de légumes? À des vrais légumes, répondit le lapin. Les arbres utiles ne donnent pas que des chaussures ou des jouets. Il y en a dont les fruits ont la forme d'esclaves, de serviteurs. Ce sont des tubercules munis de bras et de jambes qui font tout ce qu'on leur dit. On les appelle les courges serviles. Pour entrer dans l'usine, tu devras te déguiser en courge, sinon on ne te laissera pas passer. » Élodie ne perdit pas de temps à protester, car elle avait pu vérifier que Tinky Winky avait toujours raison. D'ailleurs, sans attendre, le lapin la poussa en direction d'un verger d'arbres à bicyclette. Tout au fond, se cachaient les arbres à esclaves. Ceux-ci ressemblaient effectivement à de grosses bananes verdâtres munies de bras et de jambes. Ils étaient accrochés aux branches comme des pendus. C'était un peu effrayant. « Pas de panique, chuchota le lapin. Ce ne sont que des légumes. Aide-moi à en décrocher un. Si nous faisons vite, l'arbre n'aura pas le temps de se réveiller. » Les deux amis se suspendirent aux jambes de l'une des bananes qui se détacha de sa branche sans faire de difficulté. Sitôt l'étrange cosse posée à terre, Tinky Winky tira son sabre et lui fendit le ventre. Élodie poussa un cri d'horreur. « Cool !» siffla le lapin entre ses grosses dents de devant. « Il ne s'agit pas d'un être vivant. Je suppose que pendant ton séjour dans le monde réel, tu ne fondais pas en larmes chaque fois qu'on pelait une pomme de terre devant toi. » Élodie se calma en notant que la banane, ou plutôt la courge, ne semblait pas souffrir. « Il s'agit d'organismes rudimentaires, » expliqua Tinky Winky. Ils n'éprouvent rien, ne pensent rien. Ils font juste ce qu'on leur dit de faire jusqu'à ce qu'ils commencent à pourrir, alors on les jette. Tu comprends pourquoi Boromidas les apprécie. Et en plus, il n'a même pas à les payer. Que vas-tu faire de cette chose ? S'inquiéta la jeune fille. Un déguisement haleta le lapin qui vidait à pleine main la pulpe fibreuse emplissant le ventre de la courge. En la creusant comme une citrouille d'Halloween, on en fera une sorte d'armure que tu pourras enfiler. L'écorce mettra une semaine à se racornir. D'ici là, j'espère que nous aurons trouvé le moyen de nous infiltrer dans le palais de l'usurpateur. » Avec un petit soupir de résignation, Élodie s'introduisit dans la cosse évidée, puis glissa ses bras dans les bras du légume, ses jambes dans les jambes, ses doigts dans ses doigts, et ainsi de suite. C'était gluant et ça sentait l'artichaut. Mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur. Parfait, triompha Tinky Winky en lui jetant un coup d'œil appréciateur. Je vais creuser deux petits trous à la hauteur de ton visage pour que tu puisses y voir. Puis je recoudrai l'entraille ventrale et le tour sera joué. Mais toi, fit la voix étouffée d'Élodie montant du fond de la courge. Moi, je vais me teindre en vert, répondit l'animal. Ensuite, nous nous présenterons à la porte de l'usine. Je serai un honnête lapin accompagné de son esclave végétal, venant quémander du travail. Je dirai que tu m'obéis au doigt et à l'œil, et que tu abats plus de besogne que 3 courgettes normalement constituées. Ça devrait marcher. 2 heures plus tard, ils arrivèrent en vue de l'usine. Bouger à l'intérieur de la courge était assez mal commode. Aussi Élodie maudissait-elle son compagnon pour ses idées saugrenues. Le palais royal était invisible car les hangars de la fabrique le dissimulaient. Élodie fut surprise de voir que des centaines de voies ferrées sortaient des bâtiments pour filer jusqu'à la ligne d'horizon. « Tu ne m'avais pas dit que c'était une gare, » lança-t-elle à Tinkinbinky. « Regarde un peu ça, il y a des dizaines de locomotives. » « Ce sont les trains du rêve, » expliqua le lapin d'une voix sourde. Une fois rempli de colis, il s'élance dans la nuit. Ils ne fonctionnent pas au charbon. C'est de l'or qu'on brûle dans leur chaudière. L'or des rêveurs. Celui que nous faisait ramasser Bolbec. Tu te rappelles? De l'or? Oui, seul l'or peut permettre aux locomotives de se dématérialiser et de passer dans l'autre monde. C'est ainsi qu'elles entrent dans la tête des enfants endormis pour déposer les rêves qu'ils ont commandés. L'or transforme le train en une espèce de fantôme qui peut traverser les murs et les gens. Quand nous serons là-bas, il est possible qu'on nous fasse travailler à la gare. Si cela arrive, fais bien attention de ne jamais monter dans un wagon. Pourquoi ? Tu ne survivrais pas au voyage, crois-moi sur parole. Maintenant, n'ouvre plus la bouche, nous arrivons. Les courges ne parlent pas. Si un gardien t'entendait, tout serait fichu. Élodie n'était guère emballée par la tournure des événements. La gare gigantesque lui faisait peur. Les locomotives ressemblaient à des dinosaures de métal noir. L'adolescente se retenait à grand-peine de sursauter chaque fois qu'un jet de vapeur s'en échappait. Tout le travail était effectué par des légumes. En ce moment même, 2 courges vidaient un coffre de pièces d'or dans le wagon à charbon attelé à l'une des locomotives. Seuls les légumes peuvent aller et venir entre les deux mondes, expliqua Tinkinbinky à voix basse. Ils ne pensent pas, ne rêvent pas, leur organisme n'est donc point infecté par les changements de dimension. Ce sont de parfaits ouvriers. Hé, vous deux, grogna soudain un garde en armure, je ne vous ai jamais vu ici. Salut à vous, noble chevalier, fit Tinkinbinky en s'inclinant. Je cherche du travail. Mon légume esclave m'accompagne. Je l'ai bien dressé, et comme je l'ai cueilli il n'y a pas longtemps, il abattra bien de la besogne avant de commencer à pourrir. Hum, grommela la sentinelle, se désintéressant du lapin. Pour l'embauche, c'est là-bas, le bureau au bout du quai numéro 9. Ne traînez pas autour des locomotives, vous gênez la manœuvre. Au cours des minutes qui suivirent, Tinkinbinky signa le registre d'embauche sous un faux nom et reçut un médaillon qu'il dut accrocher avec une pince au bout de son oreille droite. Élodie, en tant que légume, ne reçut rien. Le responsable se contenta de lui peindre un numéro sur le dos pour la différencier des autres courges travaillant dans les hangars. « Au début, on vous affectera aux besognes faciles, » expliqua le chef de quai d'un ton sans réplique. « Il faut ouvrir l'œil. Ne pas se tromper dans les commandes, ne pas mélanger les adresses. » Les rêves doivent arriver au bon endroit. Une activité de fourmilière régnait dans les hangars. Des animaux et des légumes couraient en tous sens, les premiers portant des piles de lettres, les seconds des tas de paquets en rubanais qui ressemblaient à des cadeaux de Noël. Élodie vit qu'on classait les bons de commande par catégorie. Rêve scolaire, rêve de chanteuse, rêve d'actrice, numéro du loto, rêve de bonheur. Des trieurs, après avoir brièvement parcouru les bons de commande, les enfournaient dans le casier correspondant. D'autres animaux s'en emparaient aussitôt et se mettaient à galoper au long d'étagères supportant des centaines et des centaines de paquets cadeaux classés, eux, par ordre alphabétique. Une telle agitation vous donnait le tournis. Chaque paquet comportait, collé sur sa face supérieure, le nom et l'adresse du destinataire. Élodie, du coin de l'œil, déchiffra l'une de ses étiquettes. Elle lut. Pour Anne-Magali Laverton, 11 ans, un rêve de chanteuse personnalisée a livré cette nuit à 2h du matin. Ce paquet contient un rêve de 38 minutes au cours duquel Anne-Magali gagne un concours qui lui permet d'enregistrer son premier disque. Ce disque est un grand succès. Anne-Magali part faire une tournée en Amérique. Prix du rêve, 10 euros. Rêve d'excellente facture qui laissera à la rêveuse une grande impression de bonheur. Élodie n'en croyait pas ses yeux. Les légumes doivent prendre les paquets sur les étagères et les porter dans les trains correspondants, expliqua le chef de quai d'une voix désagréablement autoritaire. Leur travail consiste à livrer les colis à destination et à ramasser l'argent sous les oreillers. Si le compte n'y est pas, ils doivent remporter le paquet. La maison ne fait pas crédit. On paie comptant. Ta courge sera-t-elle capable de se rappeler tout ça ? Bien sûr, chef, s'empressa de répondre Tintin Pinky. Je l'ai bien dressée. Elle sait parfaitement lire et compter. Tant mieux pour elle. Et pour toi, ricana l'homme. Sinon, je te tranche les oreilles. J'ai l'impression de travailler dans les ateliers du Père Noël, songea Élodie en faisant le tour des installations. Elle avait été impressionnée par le standard. Cette salle où des téléphonistes notaient les commandes formulées par les rêveurs. Des petites voix ensommeillées s'échappaient des écouteurs. C'était celle des enfants endormis qui passaient une commande du fond de leur lit. On entendait des choses du genre « Je voudrais être acteur dans un grand film avec des dinosaures et des robots. Il y aurait mon nom en grand sur l'affiche et… » Et les téléphonistes notaient scrupuleusement les détails sur une fiche spéciale, sans oublier le nom et l'adresse du rêveur, puis transmettaient ce descriptif au service fabrication. Là, d'autres animaux entassaient dans un carton d'emballage les éléments constitutifs du rêve. Ces éléments avaient toujours une forme symbolique. Une poupée déguisée en acteur, une affiche de film, des jouets représentant des dinosaures et des robots. Ils étaient alignés sur des kilomètres d'étagères comme dans un magasin. Grimpés sur des patins à roulettes, les bêtes qui travaillaient à la fabrication se déplaçaient d'un bout à l'autre de la salle avec une vélocité qui donnait le tournis à Élodie. Sitôt le paquet fermé, il descendait au service expédition où il attendait d'être chargé dans l'un des trains du rêve. Il y avait énormément de demandes. En ce qui concernait les leçons, on glissait dans les colis des pages arrachées au manuel scolaire. Les solutions des exercices étaient prélevées, elles, dans les brochures de corrigés dont se servent habituellement les professeurs pour éviter d'avoir eux-mêmes à faire les problèmes qu'ils infligent à leurs élèves. « Tout cela sera déposé dans la tête des rêveurs dans moins d'une heure, » chuchota Tinky Pinky. « Comme tu peux t'en rendre compte, c'est une industrie qui marche fort. Ton oncle Boromidas est d'ores et déjà multimilliardaire. S'il devait s'enfuir dans le monde réel, il y vivrait à l'aise. » Les deux amis n'eurent bientôt plus le loisir de bavarder, car on leur ordonna de se joindre aux autres travailleurs. Pour commencer, on les affecta au service expédition. « C'est simple, » expliqua le chef de quai. « Vous prenez les paquets sur ce tapis roulant, vous lisez les étiquettes et vous courez les porter dans le train qui dessert les villes indiquées. Suivez les panneaux et les flèches. Ce n'est pas difficile, il suffit d'avoir un peu de mémoire. Même une endive pourrait le faire. » Dès lors, Élodie et Tinky Pinky se retrouvèrent pris dans un tourbillon de folie et de bousculade. Légumes, lapins, chats, chiens, ours, tout le monde galopait, les bras chargés de paquets, tandis que les haut-parleurs hurlaient. « Attention, le train du rêve 117 va partir dans 10 minutes. Il dessert les villes de Paris, Versailles, Rennes, Orléans. » D'autres convois allaient plus loin encore. Élodie entendit des noms comme Hong Kong, Pékin, Madrid, Moscou, Istanbul, Rome, Montréal. Mal à l'aise dans son déguisement de courgette, elle faillit laisser tomber ses colis à plusieurs reprises. De plus, elle y voyait mal par les trous du masque. Lire les panneaux indicateurs dans ces conditions n'avait rien de facile. Tinky Winky l'aidait de son mieux. Hélas, il ne pouvait trop en faire, car le redoutable chef de quai le surveillait d'un œil mauvais. « À gauche !» soufflait le lapin. « Maintenant, à droite ! Le deuxième wagon !» Tout le monde était survolté et ne cessait de s'envoyer des coups de coude. Chaque wagon affichait sa destination en grosses lettres blanches. À l'intérieur des fourgons, des légumes esclaves classaient les paquets. La taille des wagons stupéfia Élodie. Elle n'en avait jamais vu d'aussi gros. « N'y monte jamais !» lui répéta Tinky Winky. « Seuls les légumes peuvent voyager impunément entre les deux mondes en employant ce type de transport. »« Qu'est-ce qui m'arriverait ?» s'enquit la jeune fille. « Je ne sais pas, » avoua le lapin. « Mais on m'a dit que c'était horrible. Peut-être que ton corps exploserait, ou que ta cervelle se mettrait à bouillir. »